Voilà. Donc, comme je disais, la Bible est pleine de défis. On le voit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et donc je vous donne quelques exemples. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui doivent nommer les animaux, prendre soin du jardin, et qu'ils ont tout à découvrir parce que je suppose qu'on lui a pas, on leur a pas donné une notice explicative vraiment de comment ça se passait, mais ils ont découvert petit à petit ce qui était devant eux. Et puis est venu le temps de la tentation et le temps de l'exil du jardin d'Éden. On peut prendre l'exemple de Moïse, qui ne savait pas bien parler en public et qui a dû se présenter devant le Pharaon et qui a aussi dirigé le peuple d'Israël. On a l'exemple du jeune David, le berger, qui va se présenter devant le géant Goliath. On a Samson face aux Philistins. On a Gédéon, Déborah, etc. dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, quelques exemples aussi. Pierre qui marche sur une mer déchaînée. Des disciples, des hommes banals envoyés prêcher la bonne nouvelle. On a Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, qui verra sa vie transformée et qui mourra en martyr pour le nom du Seigneur. Et donc, chacun à sa manière est passé par ses propres défis. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous aujourd'hui, passez aussi probablement par vos propres défis. Comme vous le savez, la vie chrétienne ne nous empêche pas de passer par des difficultés. Et même si le Seigneur nous garde et qu'il veille sur son peuple, nous sommes, malgré tout, nous ne sommes pas exempts de difficultés. Dieu aime les défis et il nous laisse en traverser car c'est ainsi qu'il exerce notre foi. Glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, donc des épreuves, mais au bout, la victoire et l'espérance. Donc on voit que Dieu aime accomplir de grandes choses au travers de son peuple. On le voit dans l'histoire, dans la Bible, parce que Dieu utilise des situations qui semblent complètement perdues pour manifester sa puissance, son autorité et sa gloire. Rappelez-vous l'histoire de Sarai, la femme d'Abraham, qui a ri quand l'ange de l'Éternel lui a dit qu'elle allait tomber enceinte alors qu'elle n'était plus en âge d'enfanter. Rappelez-vous la fille de Jaïrus que tout le monde pensait déjà morte et que Jésus a dit qu'elle dormait. Rappelez-vous ici Jésus mort et ressuscité le troisième jour. Toutes des situations incroyables, improbables, perdues d'avance, et le Seigneur se manifeste au travers de ces situations. Dieu peut utiliser les situations les plus catastrophiques, les plus désespérées, pour rendre son plan parfait, puisqu'il fait toutes choses bonnes en son temps, comme nous dit l'Ecclésiaste. Notre Dieu est capable d'amener la bénédiction et le miraculeux au milieu de circonstances et de situations qui nous semblent complètement perdues. Il peut changer les choses et il peut inverser la tendance. C'est aussi, je vous dis ça aussi, parce que justement, nous sommes actuellement dans des temps troublés et je pense qu'il est nécessaire aussi de remettre Jésus, Dieu, au centre de ces situations parce que Dieu est capable d'inverser les tendances et de changer les situations même compliquées. C'est pourquoi je voudrais que vous ne désespériez pas. Car je sais que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il est capable de tout. Il est certain que si on regarde aux circonstances actuelles, si on regarde à notre circonstance, peut-être à la difficulté qu'on traverse, au défi qui est devant nous, on peut être démoralisé, frustré, on peut être dans le désarroi, perdre espoir, déçu. Mais moi, je vous dis, gardez espoir parce que Dieu accomplira son dessein même dans cette difficulté. Dieu est au-dessus de toutes ces choses, et aussi nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Je ne sais pas de ce que demain sera fait, mais je sais que Dieu le sait. Et si Dieu sait, si Dieu est aux commandes, je sais qu'il a des plans d'avenir bons pour moi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? On lit ça dans Matthieu 6, verset 27. Parfois, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Alors, quelle attitude adopter face à ces défis qui se présentent devant toi? J'aimerais te lire deux versets, Romains 16, verset 10 et 2 Timothée 2, verset 15. Romains 16 nous dit: « Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. » Et 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. La semaine dernière, nous avons vu avec Samuel la notion de l'idolâtrie et la manière dont elle peut s'introduire chez nous. Notre manière de vivre, elle va témoigner de notre engagement. Nos réactions face aux défis, face aux circonstances, elles vont témoigner de notre foi. Si quelqu'un me lance un défi, cette personne va forcément s'attendre à ce que je le relève et elle va vouloir être là pour me voir réaliser ce défi afin de pouvoir le valider, afin de pouvoir l'attester. Quand on dit à des gens qu'on est chrétien, bien souvent les gens ne nous croient pas capables d'être des chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont prêts à nous défier d'être des chrétiens et entre guillemets, ils nous attendent au moindre tournant et ils sont prêts à nous prouver le contraire. 1 Pierre 3, verset 13 nous dit « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ? D'ailleurs même, si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Dans la Bible se trouvent de vrais défis, de réels défis. Obéir aux commandements de Dieu relève d'un véritable challenge pour des gens, des humains faillibles comme nous. Un des plus gros défis de notre société aujourd'hui, je pense, est l'orgueil. Bien des choses, bien des hommes cherchent à prendre la place de Dieu dans notre vie. Et c'est un réel défi de ne pas s'enorgueillir. Je voudrais utiliser un passage qui se trouve dans 2 Samuel pour dégager plusieurs enseignements. C'est 2 Samuel chapitre 24. Je vais vous le lire en entier. « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroer, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Tachtim-Otchi. Ils se rendirent à Danjaan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je t'impose 3 fléaux, choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays ? 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ? Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beersheba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait ? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi, son serviteur ?» David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars pour l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Bon, c'était un texte un petit peu long, alors j'espère que vous avez bien tout entendu et écouté, mais je vais le reprendre. Je vais le reprendre un petit peu. Et donc, on voit le roi ici, David, qui est à l'apogée de son règne et qui va vouloir dénombrer le peuple d'Israël. Alors vous allez me dire, mais où est l'erreur, où est la faute de David dans ce dénombrement? Parce qu'un peu plus tôt, on voit bien que Dieu demande lui-même un dénombrement à David avant que le peuple d'Israël rentre dans le pays promis. Mais ici, ce n'est pas pareil. Le problème, c'est que dans le dénombrement, David cherche à connaître sa propre force. Il cherche à savoir quelle force militaire il possède. David s'enorgueillit de sa réussite et se montre fier de l'étendue de son pouvoir. Par son dénombrement, il cherche à se confier en lui, en ses propres forces, plutôt qu'en Dieu. Nous agissons, nous aussi, comme David, lorsque nous comptons sur nous-mêmes, quand nous pensons que notre force, notre réussite, nous vient de nous. Quand nous cherchons à nous glorifier, nous, plutôt que de glorifier Dieu dans nos situations, dans nos défis, dans nos circonstances. David aura pourtant été averti par Joab, son chef de l'armée, qui lui dira « Mais que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon Seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi Seigneur le roi veut-il faire cela ? Pourquoi David veut-il connaître le nombre de personnes qu'il possède dans son royaume ?» Alors là, on voit que Joab lui donne un bon conseil, mais David persiste quand même dans sa décision. C'est un enseignement qu'on peut en tirer aussi. Sachons être à l'écoute des gens de bons conseils. Quand nous avons des bons conseillers, sachons être à leur écoute pour aussi revenir sur les décisions, les mauvaises décisions que nous pouvons prendre. Donc, après s'être rendu dans tout le royaume, Joab, 9 mois et 20 jours plus tard, revient. Et donc, il annonce les chiffres à David. Il annonce 800 000 hommes vaillants aptes au combat en Israël et 500 000 en Juda. Ça, c'est les hommes vaillants, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à combattre, sans les femmes, les enfants, etc. Et je laisse imaginer à chacun ce que cela devait représenter et ce que cela devait représenter à un homme d'être à la tête d'un si grand pays. Le royaume était énorme et on voit... Dans le verset 10, il est dit « David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » David ressentit son cœur battre. J'essaye de m'imaginer à la place de David. Mon cœur battre, qu'est-ce que ça veut dire quand il comprend, quand il entend le nombre ? Quand il entend le nombre de personnes qu'il possède dans son royaume, son cœur bat. Est-ce que c'est un sentiment de fierté? Il se dit, waouh, je suis quand même à la tête d'un pays énorme, de autant de personnes, et j'ai une force militaire phénoménale. Personne ne pourrait me battre. Et donc, il a ce sentiment d'orgueil, de puissance qui va l'envahir. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe du coup? Il reconnaît sa faute et il éprouve le besoin de se repentir, parce qu'il voit bien que, en fait, au travers de ce recensement, c'est lui-même qu'il a cherché à glorifier au lieu de se confier en Dieu qui fait la force venait de Dieu et non pas de sa puissance militaire. Et si David était le roi selon le cœur de Dieu, nous pouvons bien lui tirer cette leçon. Sachons reconnaître nos fautes afin de nous en repentir. On dit souvent « faute avouée, faute à moitié pardonnée ». L'Éternel va punir donc David pour sa mauvaise conduite et lui laisse donc trois choix, trois fléaux. David va préférer, bien sûr, tomber entre les mains de Dieu, car David connaît Dieu et il connaît sa compassion et préfère plutôt tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Conséquence désastreuse du péché, 70 000 hommes vont mourir par sa faute. Donc l'expiation de sa faute, elle va passer par la mort de ses hommes et par un holocauste. L'Éternel va lui demander de lui offrir un sacrifice, mais pas n'importe quel holocauste, un holocauste qui lui coûte. Parce que par cet holocauste, David va témoigner de sa repentance et honorer Dieu. David aurait pu avoir le champ gratuitement parce que Aravna, quand il va devant lui, bien sûr, c'était le roi. Aravna, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui donner le champ. Mais le roi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne veux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte. » Et il veut acheter le champ d'Aravna à sa juste valeur. La valeur d'un holocauste, d'un sacrifice, elle n'est pas fonction de son prix. Elle est fonction du coût que cela représente dans le cœur de la personne qui l'offre. Je vais prendre l'exemple de Marc 12, verset 42. On voit une petite veuve qui vient mettre dans l'offrande deux petites pièces. Pas grand-chose apparemment, mais pour elle, cela représentait beaucoup. Parce que cela lui a coûté, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle va donner de son indispensable, de son essentiel, de ce qu'elle a besoin pour vivre, car elle sait derrière que Dieu pourvoira. Et son offrande, du coup, lui coûte. Son offrande est acceptée par l'Éternel. Dans Malachie 1, au verset 7 et 14, je vais vous le lire aussi. Donc Malachie 1. Versets 7 à 14. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites : En quoi t'avons-nous souillé ? C'est en disant : La table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers, mais vous, vous le déshonorez en déclarant « La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. » Vous dites « Quel ennui !» et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades, voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains ? Dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre un Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifice au Seigneur une bête en mauvais état, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Offrir des aliments impurs. Le peuple d'Israël devait offrir en sacrifice des animaux purs et sans tache. Mais pourquoi donner un animal sans défaut alors que dans le troupeau il y a des bêtes boiteuses, malades, mourantes et qui vont finir par mourir vu qu'ils vont être sacrifiés. Dieu voulait que son peuple lui offre quelque chose de qualité, quelque chose qui lui coûte, car Dieu mérite cette attention. Qu'est-ce que je donne à l'Éternel ? Est-ce que je donne des choses qui me coûtent ? Est-ce que je donne de mon superflu ? Est-ce que je donne les miettes ? La véritable adoration est une adoration qui coûte. Donne-t-on la meilleure part ou la moindre, celle de moindre valeur à l'Éternel ? Donne-t-on des agneaux sans défaut et sans tache ou des bêtes boiteuses ? Alors frères et sœurs, j'aimerais reprendre avec vous un petit peu ce que j'ai vu. Et donc face au défi qui se présente à toi, Fais-tu preuve de force et efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Offre à l'Éternel quelque chose qui te coûte. Donne de ton indispensable à Dieu. Donne la meilleure part. Dieu désire des offrandes volontaires, des offrandes significatives qui témoignent de notre engagement. Et dernière chose, restez confiant dans le plan de Dieu, car ses plans sont parfaits. Oui, aujourd'hui, des défis se placent devant nous, ils se présentent à nous. Et en tant qu'individu personnel, on a tous des défis. En tant que famille, on a des défis. En tant qu'église, en tant que nation. Et aujourd'hui, en tant que nation, c'est vrai qu'on a de réels défis qui se présentent devant nous. En tant qu'église aussi, là, on a des défis qui se présentent devant nous aussi, avec des défis d'adaptation, etc. Mais voilà, quelle va être notre réaction face aux défis, face aux difficultés? Et je vois que ce matin, certains ont choisi d'être ici aussi. Et c'est vraiment tout un honneur de donner la meilleure part à l'Éternel et d'avoir pris le défi de venir ici aussi pour pouvoir être devant Dieu et de pouvoir lui donner notre adoration, la meilleure part de ce que nous avons et de ce que nous sommes.